France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la grotte Cosquer ou l'histoire engloutie. Dans le parc national des Calanques, entre Marseille et Cassis, se trouve un trésor que la mer a gardé pour elle pendant des millénaires. 10 exactement. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, 10 millénaires donc, pendant lesquels la Méditerranée a caché aux hommes un bout de son histoire et de leur histoire. Parce que dans les entrailles de ces falaises, au fond d'une grotte, certains de nos ancêtres ont laissé sur les parois des traces de leur passage. Des peintures, des gravures par centaines, belles et énigmatiques. C'était à une époque où la Provence était une grande steppe froide et où la mer était encore loin. Puis le climat a changé, les glaces ont fondu et la montée des eaux a condamné le passage de cette caverne sacrée. Il a donc fallu attendre 100 siècles avant qu'un homme, Henri Cosquer, et certains de ses amis, n'aient la curiosité et le courage d'explorer sous l'eau, par 40 mètres de fond, le long boyau que 30 000 ans plus tôt, les premiers artistes de l'histoire de l'humanité avaient emprunté à pied. Découverte en 1991, la grotte Cosquer est la seule grotte ornée sous-marine que l'on connaisse au monde. Notre invité aujourd'hui, Luc Vanrel, plongeur, photographe, archéologue, responsable scientifique de la grotte Cosquer depuis 2001, il la connaît comme sa poche, c'est lui aussi qui a découvert l'épave de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry 60 ans après sa disparition. Bref, un chercheur dans tous les sens du terme. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Romain Weber, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Entrer dans une grotte, c'est un peu entrer dans un autre monde. Il y a toujours un côté magique.
On entre aussi dans l'intimité des hommes préhistoriques. Ça, c'est extraordinaire.
C'est la découverte de ce que ces gens ont fait. Entrer dans leur intimité, savoir ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu, comment ils ont pensé. Voilà, ça c'est un grand bonheur.
9 juillet 1991, Cassis, la nuit est tombée. Un petit chalutier quitte lentement le port de la ville qui s'endort. Il ne part pas pêcher, cela fait bien longtemps qu'il ne sert plus à ça. Non, c'est le bateau du club de plongée. Ce soir-là, à la manœuvre, il y a le patron, Henri Cosquer, et sur le pont, sa nièce Sandrine, accompagnée d'une monitrice et d'un moniteur, respectivement Pascal Auriol et Yann Gogan. Le bateau part vers le large, puis bifurque à l'ouest en direction des Calanques. Les bouteilles d'oxygène sont pleines, les lampes sont chargées, les quatre plongeurs partent pour une expédition de nuit. La mer est plate, et c'est la pleine lune. Alors, comme en plein jour, ou presque, les quatre amis regardent défiler ces calanques qu'ils connaissent depuis toujours, et mieux que quiconque. Parce que, en plus d'y être nés, et d'en fréquenter les sentiers, ils en explorent les fonds marins tous les jours. Pourtant, ce soir-là, Henri Cosquer emmène sa nièce et ses moniteurs dans un endroit qu'ils n'ont pas encore exploré. Et pour cause, si l'on se fie aux cartes, cet endroit n'existe pas. Henri Cosquer est l'une des seules personnes au monde à savoir que là, à côté du cap Morgiou, à une poignée de 1000 marins de Cassis, il y a quelque chose de caché dans la pierre. Il coupe le moteur et mouille à une trentaine de mètres de la falaise, au bout de ce long bras calcaire qui s'avance dans la mer. Les quatre amis s'équipent et ils plongent.
Bon, je vais aller à l'eau avant, tu me suis ?
Vu du ciel, la scène n'est plus qu'une danse de quatre faisceaux lumineux qui s'agitent sous la mer et qui s'estompent lentement. L'entrée de ce quelque chose qu'a découvert Henri Cosquer se situe à 37 mètres de profondeur. C'est un trou de 3 mètres de large sur 1,30 mètre de haut qui conduit à une galerie de 116 mètres de long. Il ne faut que quelques minutes aux plongeurs pour y accéder et pour que les lumières, depuis la surface, disparaissent totalement. Aucun d'entre eux, même pas Henri Cosquer, ne le sait encore, mais cette expédition dans le cœur de la falaise est aussi un voyage dans le temps de 33 000 ans. Seul, silencieux, bercé par la mer, le vieux chalutier attend les plongeurs à un bateau baptisé le Cro-Magnon. Ça ne s'invente pas. Henri Kosker l'a acheté 3 ans plus tôt, en 1988. L'année tient donc où est sorti l'un de ses films préférés.
Oh Jacques, parle-moi encore. Raconte-moi une histoire.
Une histoire? Tu sais que ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes, tu descends au fond de la mer très loin. Si loin que le bleu n'existe plus. Là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elle, rester avec elle pour l'éternité, alors elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes. S'il est sincère, s'il est pur, et si tu leur plais, alors elles t'emmèneront pour toujours.
Vous avez peut-être reconnu un extrait du Grand Bleu et surtout sa musique. Le Grand Bleu, le film culte des plongeurs. Mais pourquoi les fascine-t-il autant? Peut-être parce qu'il restitue bien leur attirance mystique pour le fond de la mer et les drôles de relations qu'ils entretiennent entre eux. Chacun son bout de mer, son territoire, ses secrets jalousement gardés. On ne dit pas grand-chose de ce qu'on a trouvé sous l'eau, même aux amis. Les abysses, ça se mérite et on y fait sa place dans le silence, c'est ça. L'ambiance du petit cercle des plongeurs de Marseille dans ces années 80 et que le Grand Bleu a si bien retranscrit. Surtout à Marseille, qu'on appelle alors la capitale de la plongée. Parce que c'est dans cette ville que cette pratique est née. C'est là que, dans les années 60, un certain Beauchat fabrique les premières combinaisons. C'est là que le commandant Cousteau se fait connaître. C'est à Marseille encore que naît la première société d'exploitation sous-marine, la Comex, celle qui retrouvera le Titanic. Oui, la mer y est gorgée de trésors. Il suffit presque de se jeter à l'eau pour retrouver les amphores, les statues, les épaves. De l'occupation phocéenne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce sont les témoins de plus de 2,5 millénaires d'histoire qui se trouvent là, au fond de l'eau, à attendre, ou pas. Bref. Marseille, c'est l'Eldorado de l'archéologie sous-marine. Et tous les plongeurs rêvent de trouver leur trésor à eux, enfouis sous un banc de sable ou dans le creux d'un rocher. Bien, mais à côté de Marseille, il y a des rochers qui en comptent beaucoup, des creux. Les calanques, ces immenses bouts de calcaire qui s'étendent jusqu'à Cassis, 20 km à l'est, constituent un terrain d'exploration infini. Des trous, des galeries, des grottes creusées dans cette roche extrêmement fiable, il y en a des milliers. Quelques cavernes submergées sont découvertes, les centres de plongée emmènent les touristes les visiter, et c'est dans cet environnement qu'évolue un certain Henri Kosker. Lui, c'est le patron du club de plongée de Cassis. C'est un homme trapu, taiseux, avec une grosse barbe brune, genre loup de mer. On le surnomme Barbu, d'ailleurs. Il est à la fois marin, scaphandrier et moniteur de plongée, un vrai travailleur de la mer. Et un jour de septembre 1985, ses promenades sous-marines le conduisent au Cap Morbiou, au cœur des Calanques. Il raconte.
Les plongées de ce type-là, on les fait pour le plaisir. J'ai la capacité de faire des plongées profondes ou autres sous terre. Et le plaisir, c'est de rentrer un peu dans le rouge et de trouver de l'inconnu. Donc là, j'ai trouvé un trou dans la roche à 37 mètres de profondeur et j'ai commencé à explorer l'entrée. Moi, j'ai commencé à avancer dans la galerie qui est assez longue.
On s'enfonce dans le noir. Une sorte de mâchoire qui nous accueille. Nous pouvons pénétrer. Voilà, je me glisse. 30 à 40 mètres, le faisceau de la lampe porte très très loin. Nous continuons à nous enfoncer dans cette grotte, nous sommes rendus à 36 mètres.
Ce cap est un coin prisé des corailleurs et des pêcheurs d'oursins. Eux récoltent la mer comme les paysans leurs champs. Pour Kosker, c'est assez similaire. Je fouille les calanques, dit-il, comme d'autres cherchent des champignons. Mais cette petite ouverture, il ne la trouve pas tout à fait par hasard. C'est un autre plongeur qui lui a signalé. Elle n'est pas très engageante, mais elle est presque inconnue. Donc, et ne serait-ce que par principe, il faut l'explorer. Postée devant son entrée, on n'en voit pas le fond. Sur les premiers mètres, des coraux recouvrent la partie supérieure. Kosker y passe la tête, les épaules, puis y entre complètement. Quelques mètres parcourus, et le boyau fait maintenant 3 mètres de haut. Le corail laisse place à une vase noire qui recouvre la paroi. Gare à ne pas la toucher. Elle est très volatile, et on n'y verrait plus rien si elle venait à se décoller. À mesure que Kosker progresse, la lumière faiblit. Il n'a pas de lampe. L'entrée est déjà 20 mètres derrière, et il n'aperçoit pas le bout de cet endroit, qui est en fait une véritable galerie. Donc, il faut rebrousser chemin, pour cette fois. Quelques jours passent avant que Kosker ne reprenne son exploration. Sans prévenir personne, il redescend, avec une lampe cette fois. Il entre, avance droit devant. Sa torche éclaire le boyau qui s'allonge encore plus que ce qu'il imaginait. La première fois, il avait parcouru 20 mètres. Le voilà maintenant à 50 mètres de l'entrée et, devant lui, un embranchement. Une voie part sur la gauche, un peu plus étroite. Serait-ce le début d'un dédale ? Se perdre dans ce tunnel, seul, alors que personne ne sait où il le mettrait en assez... alors que personne ne sait où il est, le mettrait en assez mauvaise posture. Mais il faut comprendre cet endroit, en faire la topographie. Alors, Kosker, curieux, s'engage dans la voie de gauche. Il parcourt une quinzaine de mètres. C'est une impasse, et le temps commence à lui manquer. Il sait qu'il lui faudra suivre la voie principale pour la suite. Cette fois, il préfère y aller avec l'un de ses moniteurs. Et il écrit.
Depuis son entrée jusqu'à la ramification où j'avais abandonné mes efforts la dernière fois, j'ai noté que le boyau monte sensiblement. Devant moi, il se déroule toujours plus loin, parfaitement linéaire sans que s'altère ni sa forme ni sa taille. Son envergure de 3 mètres est idéale pour les promeneurs que nous sommes. J'évalue à 100 mètres la distance que nous avons parcourue à présent. Nous avançons toujours. Et puis quelque chose, une forme incertaine, ondule à l'extrémité du faisceau de ma torche. Mon pouce accélère. Nous sommes à environ 14 mètres sous le niveau de la mer. Le boyau s'étrangle. Une étroite ouverture de la taille d'un homme laisse filtrer le faisceau de ma lampe. L'univers qui se meut derrière la strate restera pour aujourd'hui inexploré. Il est largement temps de réintégrer le pont du bateau.
Nous sommes à la fin du mois de septembre 1985, quand Kosker, excité par sa découverte, retourne dans la galerie pour la 4e fois. De nouveau, il est seul, et il a maintenant la drôle d'impression d'être un peu comme chez lui. « J'y pénètre comme un propriétaire attendu », écrit-il. Il progresse rapidement dans le boyau et atteint l'étranglement là où il s'était arrêté. Passage très étroit. Les bouteilles raclent les parois sur une quinzaine de mètres. Kosker jette un œil à son profondimètre. Il n'est plus très loin du niveau zéro et le boyau s'ouvre soudain sur une grande vasque immergée. Ça veut dire qu'il a atteint la grotte. Kosker est seul donc, sous l'eau, au milieu de gigantesques piliers minéraux qui ont poussé du sol. Il tourne sur lui-même, éclairant les uns après les autres ces dizaines d'énormes stalagmites. Kosker pointe son phare vers le haut et voit son faisceau se heurter à une sorte de miroir parfaitement lisse que transperce les stalagmites. La voilà, la surface. Alors il palme à la verticale, dans le sillage de ces bulles qui fuient dans la lumière, puis il émerge. Suite de son récit.
Donc après, quand on arrive dans cette grande salle, là où justement l'arrivée est majestueuse, le sol devient blanc, c'est que tout est blanc, on dirait qu'il a neigé, et vous passez en plongée dans des stalagmites de 6-7 mètres de haut, et ça c'est l'arrivée qui est un temple grec, quoi, on va dire. Ça vous marque profondément, et l'arrivée, après qu'on est clair dehors de suite, le geste que j'ai eu, c'est de regarder l'endroit que je venais de faire en plongée, les stalagmites qui continuent, quoi. Et ça, c'est une merveille au départ. Après la grotte, bon, là commencent les petits problèmes parce que ça, on n'enlève pas son masque et son étendard comme ça. L'air se goutte parce qu'il peut être vicié et tout ça. Et il faut faire attention.
Kosker est entré dans une grande cavité d'une trentaine de mètres de diamètre. Les stalagmites montent comme des colonnes striées jusqu'au plafond, 5 ou 6 mètres au-dessus de la surface. des chapelets de stalactites acérées pendent de la voûte et dessinent comme un réseau de veines couleur ocre dans la roche blanche. Stupéfait, Kosker promène son faisceau. Il n'y a aucun autre bruit que sa respiration. Et il l'a trouvé, son trésor, rien qu'à lui. Il est le seul, l'unique, à en connaître l'existence. Le premier, c'est sûr, à y poser le pied. Oui, mais Henri Kosker se trompe. D'autres sont entrés dans cette grotte avant lui, mais ça ne date pas d'hier. C'était avant les Grecs, et même avant les Égyptiens, avant l'invention de l'écriture, ou encore bien avant celle de l'agriculture et de l'élevage. L'humanité a connu 33 000 ans d'histoire depuis que d'autres Homo sapiens ont, avant lui, laissé dans cet endroit des traces de leur passage que le faisceau de sa lampe n'a pas encore éclairé. Non, car le plus beau, le plus grand, reste à découvrir. Aujourd'hui, la grotte Kosker.
France Inter, affaires sensibles.
La grotte, jardin secret d'Henri Kosker. Nous sommes à la fin de l'été 1985. Il est le seul à en connaître l'entrée, le seul à l'avoir vu. C'est son territoire. Alors il y retourne, dès qu'il peut, seul. Il explore sa propriété. La première salle est beaucoup plus grande que ce qu'il a vu la première fois. Elle mesure 70 mètres sur 55. D'énormes blocs de stalagmites la découpent en une multitude de petits espaces, certains au sec, d'autres dans une eau peu profonde. Et puis il y a une deuxième salle, grande elle aussi, à laquelle il accède en crapahutant et en se faufilant à travers un passage étroit. Au bout, il y a un puits très profond, au-dessus duquel la cavité monte en flèche dans la falaise, jusqu'à une hauteur que sa lampe ne parvient pas à atteindre. Cet endroit le fascine, l'obsède même. Mais la saison se termine, le club de plongée entre en hibernation et Kosker laisse sa grotte de côté. Les mois passent, les saisons, les années même. Il explique.
Suite cette grotte, donc j'ai fait surface en 85 dedans. Donc c'était en fin de saison de plongée. Hein. L'hiver, donc je suis parti convoyer un bateau là, en Dail Sfax en Tunisie. L'année suivante, donc 86, l'hiver suivant. Pendant l'été, là, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, bon, à cause du travail, de pas mal de petits problèmes de plongée que j'avais réglés, donc j'avais pas trop le temps de plonger pour moi. L'hiver suivant, donc, j'ai convoyé là un bateau sur les Antilles, et l'hiver d'après aussi.
Été 1991, 6 ans après les premières explorations, Kosker n'est pas retourné souvent dans sa grotte. Un peu en 88, avec son nouveau bateau, le Cro-Magnon, donc. Puis en 90, avec deux plongeurs. Il parle de sa découverte parfois, mais de façon allusive. Alors on insiste pour qu'il partage. Dont acte. Il emmène d'abord deux plongeurs spéléologues qu'il connaît bien, les frères Van Espen, qui tirent un fil d'Ariane dans le tunnel. Puis le 9 juillet 91, il se décide à inviter de nuit trois personnes. Une monitrice et un moniteur de son club, Pascal Auriol et Yann Gauguin, et sa nièce Sandrine, avec un appareil photo. Une fois entrés, ça ne manque pas. Ses invités sont aussi stupéfaits que lui la première fois. Il leur fait faire le tour du propriétaire. Émerveillé, lampe à la main, il passe deux heures à explorer. Et c'est au moment de repartir que Yann Gauguin fait passer sa lampe sur quelque chose que Kosker, jusque-là, n'avait pas vu. Cette chose, c'est une main. Ou plutôt le contour d'une main imprimée sur la roche, comme si quelqu'un l'avait posée sur la paroi et avait craché de la peinture dessus. Étonné, Kosker rigole en se demandant qui a bien pu taguer dans sa grotte. Pascal Auriol, elle, dit immédiatement « on dirait une peinture rupestre ». Le faisceau braqué sur cette étrange empreinte, ils prennent une photo puis quittent la grotte, intrigués que viennent-ils donc de découvrir. Kosker fait développer la photo. Et en y regardant de plus près, il n'y a pas qu'une seule empreinte. Non, il en a deux autres, à côté, qui apparaissent sur le tirage. Trois mains fantomatiques. « Dis donc, barbu, lui disent les trois nouveaux, tu ne nous aurais pas découvert un nouveau Lascaux ?» Alors tous les quatre, ils le retournent. Et voilà la caverne, qui à leur retour résonne de leurs cris de joie. Parce que là, d'autres mains, des rouges, des noirs, là, un bison, et là, des chevaux. Et des oiseaux, des bouquetins, un félin, des cerfs, 2h30 d'euphorie, des dizaines et des dizaines de peintures. De retour sur la terre ferme, Kosker se précipite sur les dictionnaires, cherche des livres sur la préhistoire. Ce qu'ils ont trouvé ressemble à Lascaux. Et Lascaux, c'était il y a 18 000 ans, à une époque où la mer était à plus de 10 km de la côte actuelle, ce qui veut dire que la grotte était accessible à pied. Sandrine Kosker se souvient de ces moments, 30 ans plus tard, sur France Bleu.
Mon histoire avec la grotte, elle représente quelque chose d'extraordinaire que je souhaite à tout le monde de vivre. Et je ne vais pas regarder mes amis, sinon je vais verser une larme. C'est de vivre ce lien indéfectible de la vraie amitié. On était vraiment comme dans le château de ma mère. On était des gamins dans la garrigue. On était le petit Pagnol et le petit Lily en train de chercher les trésors.
Mais que faire d'une telle découverte? Kosker le sait, il doit la déclarer au pouvoir public. Mais annoncer au monde l'existence de cette grotte, c'est céder son territoire. De toute façon, avant de la déclarer, il veut établir une topographie précise et apporter aux autorités des photos et des films. L'occasion d'inviter d'autres amis pour la dernière fois avant que, certainement, l'accès à la grotte ne soit interdit. Il emmène alors, fin juillet de cette année 91, un autre grand connaisseur des calanques. Un plongeur qui est aussi un archéologue sous-marin. Et cet homme prévient l'une de ses connaissances, un certain Jean Courtin, spécialiste du néolithique, qui lui aussi connaît bien les calanques. Il y a plongé dans les années 70 à la recherche déjà de grottes immergées. Eh bien là, il va être servi. Ce Jean Courtin se trouve sur des fouilles quand il reçoit la nouvelle. La lettre ne parle pas de grotte. Non, elle parle simplement d'une belle découverte. Ce doit être encore, se dit Courtin, des amphores, comme on en trouve des centaines. Ça peut attendre. Les semaines passent, la saison touche à sa fin. Fin août, Kosker est prêt à déclarer la grotte. Mais le 1er septembre, d'autres plongeurs s'engouffrent dans la galerie et s'y perdent. France Inter annonce la nouvelle.
Le drame dans les grottes sous-marines de la Calanque de Sormiou, au sud de Marseille. Trois plongeurs y ont trouvé la mort ce matin. En ligne de Marseille, François Lucaso.
C'est vers midi que l'un des plongeurs appartenant à une équipe de spéléo sous-marins amateurs, venu semble-t-il de Grenoble, a donné l'alerte en tirant une fusée. Les secours ont immédiatement été déclenchés. Le CrossMed et les marins-pompiers de Marseille ont envoyé 11 plongeurs sauveteurs et une assistance médicale. Les corps des trois plongeurs amateurs disparus ont été repêchés tour à tour dans l'après-midi entre 10 et 50 mètres de fond. Les plongeurs plongeurs ont pu perdre toute visibilité et céder à la panique à l'intérieur d'une des grottes sous-marines de la calanque de Sormiou. François Lucaso, Radio France Marseille pour France Inter.
Que s'est-il passé dans ce tunnel? Eh bien, les plongeurs n'ont pas pris les précautions nécessaires. La vase s'est soulevée sur leur passage, obstruant totalement la visibilité. Et dans ce brouillard, trois d'entre eux se sont noyés, dans la panique effectivement, alors qu'un quatrième réussissait à trouver la sortie. Les secouristes ont fait appel à Kosker lui-même. Alors il s'est à nouveau rendu dans la galerie, dans sa galerie. Et cette fois, pour évacuer trois corps. Mais pourquoi ces plongeurs sont-ils allés dans le trou? Savaient-ils ce qui se trouvait au bout? Probable. Pressé par cette triste histoire, Kosker se rend à Marseille pour déclarer sa découverte. Enfin, s'agit-il de peinture rupestre dans une grotte sous-marine? Voilà qui demande une expertise scientifique, répondent les autorités. Mais en toute discrétion, il ne faut surtout pas donner l'idée à d'autres plongeurs d'aller visiter la grotte. Mais il y a un spécialiste de la préhistoire capable d'explorer cette grotte immergée. Il en existe un, et un seul, Jean Courtin, celui-là même qui avait reçu la nouvelle quelques semaines plus tôt. C'est extraordinaire, comprend Courtin. On n'a jamais rien trouvé de tel dans la région. Pensez donc, des peintures rupestres au fond de grotte. On en connaît beaucoup en Espagne, dans les Pyrénées, dans le Périgord, mais à l'est du Rhône, rien. Or, Courtin, qui est né en Provence, se souvient de ce qu'annonçait des années avant un certain Escalon de Fonton, le pionnier de l'archéologie provençale. Le paléolithique provençal, disait-il, est en majeure partie sous la mer. Alors, en ce mois de septembre 91, Henri Kosker emmène Jean Courtin à la grotte. Avec appréhension, l'archéologue suit le plongeur professionnel pendant les 15 minutes que dure la traversée du boyau. De longues minutes. D'autant plus quand on sait que des hommes sont morts à cet endroit, quelques jours plus tôt. Mais, écrit Courtin, vous avez sûrement lu Alice au Pays des Merveilles. On franchit le purgatoire de ce boyau et puis on arrive, on sort la tête de l'eau, on passe de l'autre côté du miroir. Alors, montrez-moi les chevaux, les bisons, les oiseaux, demande-t-il émerveillé à Kosker. Jean Clotte, un autre préhistorien, resté en surface, fait un premier inventaire.
Il y a des mètres carrés couverts de gravures. Actuellement, et ça je peux vous le dire, c'est un scoop, on peut dire, il y a à peu près 25 mains négatives. Il y a 44 animaux déjà qui ont été répertoriés. À peu près la moitié de peinture et la moitié de gravure. Il y a un fond qui est commun à tout l'art européen, j'allais dire de l'époque, c'est-à-dire le cheval est dominant, suivi du bison. Les grosses surprises sont les animaux marins, c'est-à-dire il y a deux phoques et trois pingouins.
Des phoques et des pingouins, oui, c'était à ça que ressemblait la biodiversité provençale. Avec dans les hauteurs des bouquetins et des chamois, et aussi représentés sur les parois de la grotte, avec un félin, des cerfs et même un banc de méduses. Et des mains, par dizaines, certaines entières, d'autres, c'est étonnant, qui représentent des doigts incomplets. Des mains blessées peut-être, ou simplement des doigts repliés. Partout les pigments sont encore frais. De toutes petites boulettes d'argile sont encore délicatement collées à la paroi. Un souffle suffirait à les faire tomber. Par endroits, dans quelques creux du sol, il y a de la cendre et des charbons. Si des concrétions calcaires ne s'étaient pas formées sur les peintures, on pourrait croire que les auteurs n'étaient là que quelques jours plus tôt. Et évidemment, ce n'est pas le cas et l'authenticité de la grotte ne fait aucun doute pour Courtin. Tout cela, à première vue, devrait dater d'une vingtaine de millénaires, de l'époque où la Provence avait le même climat que les pays scandinaves d'aujourd'hui. Alors que l'Europe était prise sous les glaces. Changement climatique, dites-vous. Et ce que Jean Courtin imagine se confirme. La plupart des animaux ont été peints il y a 19 000 ans, soit 1000 ans avant la grotte de Lascaux. Et les mains, elles, datent de plus de 30 000 ans. 11 000 années au moins séparent les différentes périodes d'occupation de la grotte. Rendez-vous compte, si ces peintures avaient été faites aujourd'hui, il faudrait imaginer d'autres hommes revenir au même endroit pour dessiner de nouvelles choses en l'an 13 000. En un mot commençant, la découverte de Kosker est prodigieuse. Elle sort dans la presse, d'abord régionale, 20 000 ans sous les mers, un Lascaux sous-marin, titre des journaux, puis dans la presse nationale, puis à l'international. Kosker, le Tezu, se force à répondre à toute l'Europe, à l'Amérique, au Japon. Puis il est reçu par le ministre de la Culture, Jack Lang, en octobre 91. Et il se souvient, sur France Culture.
Alors, quand je suis rentré dans son bureau, déjà, il me dit « Ah bon, c'est toi l'homme qui a découvert cette grotte en faisant de l'apnée dans les calanques ?» Un ministre. Alors j'ai dit « Monsieur le ministre, je m'excuse, c'est pas de l'apnée que je faisais. » Alors je vois que l'information du bas vers le haut, ça marche pas. Voilà, et je lui ai raconté mon métier vite fait. Et puis comment j'ai découvert la grotte ? Sa réponse a été « Mais c'est une belle histoire, l'Indiana Jones. » Fantastique, ça. Et puis il me dit, tiens, on m'a donné quatre noms pour appeler la grotte. Alors c'était la grotte de Morjou, de la Triperie, de la Pointe de la Voile, et le dernier, la grotte Kosker. Alors quand j'ai vu que j'étais le dernier, j'ai dit quand même, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et puis il me dit, de toute façon, c'est une trop belle histoire, elle va porter ton nom et prénom. Non, et c'est lui qui a décidé.
Le paradoxe voudra qu'on l'appelle la grotte Kosker, donc, mais elle sera à tout le monde. Autre paradoxe. Cette grotte appartient au monde entier, effectivement, mais sans que quiconque ne puisse la voir. À l'exception des missions scientifiques pour lesquelles sont accrédités que des plongeurs rompus à ces expéditions difficiles. Plus de 500 peintures et gravures y ont été trouvées. Mais 30 000 ans après que nos ancêtres y ont laissé l'empreinte de leurs mains, subsistent des mystères qui ne seront jamais percés. Comment expliquer, par exemple, que ces dessins soient similaires d'une grotte à l'autre, en Espagne, dans les Pyrénées, en Dordogne, quand parfois des centaines de kilomètres et des milliers d'années les séparent? Dans quel but ces hommes et ces femmes ont-ils laissé ces œuvres sur les parois? Pourquoi ne trouve-t-on presque jamais de représentation humaine? Le préhistorien Jean Clotte, ancien responsable de l'étude scientifique de la grotte Kosker, résume. Nous nous trouvons dans la situation d'un extraterrestre en visite chez nous, et qui découvrirait un peu partout des croix sans rien connaître l'histoire du Christ. Alors, il ne peut qu'imaginer.
Ces dessins sont des dessins magiques, religieux. Quand l'artiste voit cet animal dans la paroi, pour lui, il ne se dit pas, tiens, ça ressemble à un bison, je vais compléter un bison, je vais faire un bison, tiens, c'est bien commode, hein, c'est pas ça du tout, non. Certainement, il pense qu'il y a un bison dans la roche, ou un esprit de bison dans la roche. En le complétant, eh bien, il entre en contact avec lui, ou il prend pouvoir sur lui, ou il obtient ses grâces, ses faveurs, etc. En tout cas, il établit un contact avec l'animal qui est juste derrière la paroi ou qui est pris dans la roche.
Un an après sa découverte, la grotte Kosker est entièrement numérisée pour en faire une copie taille réelle. Avant elle, la grotte de Lascaux et celle de Chauvet ont été reproduites de la même façon. Il était d'autant plus urgent de créer cette copie que la mer monte et que l'eau salée efface les peintures millimètre après millimètre. 30 millénaires après ses premières peintures, la grotte Kosker sera noyée dans quelques dizaines d'années et ses peintures effacées par le changement climatique. Le nôtre. La copie de la grotte des Calanques est ouverte au public depuis l'année dernière à Marseille, sur le Vieux-Port. Elle est remontée des fonds marins qu'Henri Kosker est allé fouiller. C'est que, dit-il, on perd la moitié du paradis à rester à la surface de la Terre.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la grotte Kosker. Notre invité, Luc Van Rel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes plongeur, photographe, archéologue, responsable scientifique de la grotte Kosker depuis 2001, et vous avez également découvert l'épave de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry 60 ans après sa disparition. On en dira deux mots à la fin de l'interview. Mais d'abord, la grotte Kosker, combien de fois avez-vous plongé dans cet endroit?
Oh, il faudrait que je cherche
à peu près,
les archives.
À peu près.
Mais je dirais à peu près 1200 fois, peut-être, à peu près.
Ah oui, quand même. Alors, ben, décrivez-nous, qu'est-ce qu'on ressent quand on y accède?
C'est un joyau qui se mérite. Hein. C'est vrai que l'accès est assez engagé, donc... participe un petit peu à l'exaltation qui attend à l'arrivée dans la grotte, avec un paysage minéral absolument exceptionnel. Et il y a très très peu de grottes sur la planète qui soient aussi belles sur le plan minéral. Mmh. Et bon, en plus, bien sûr, sur le plan patrimonial, tomber sur une grotte qui a été fréquentée pendant un peu plus de 14 000 ans, c'est absolument exceptionnel, hein. On a parfois du mal à se caler par rapport à ces grands chiffres. 33 000 ans pour les plus anciennes dates obtenues, 14 000 ans pour la fréquentation. Il faut se rappeler que Jésus-Christ, Jules César, c'est 2000 ans. Hein.
C'est hier.
C'est hier à côté. Hein. Voilà. Donc on est sur des temps excessivement anciens qui nous ramènent aux périodes glaciaires. Donc c'est vertigineux.
Alors justement, vous parliez, vous disiez, ça se mérite d'aller jusque-là. Quels sont les dangers déjà pour le plongeur?
Alors, il s'agit des dangers classiques de la plongée souterraine. Hein, donc, tout ce que l'on appelle techniquement la plongée sous surface non libre, c'est-à-dire dans des zones où on ne peut pas faire surface pour respirer si besoin. Donc là, effectivement, pendant 116 mètres, le plongeur est sous surface non libre. Et dans des zones parfois un petit peu étroites et confinées, ce qui met toujours en péril un petit peu la structure, les parties fragiles du matériel de plongée, comme par exemple les tuyaux moyenne pression et haute pression, qu'on peut choquer sur les plafonds et briser. Donc on utilise systématiquement du matériel redondant par sécurité, donc on a deux scaphandres au lieu d'en avoir un. Tout le monde a l'impression qu'on a des bi-bouteilles, mais les bouteilles sont séparées, avec chacune un détendeur. On gère la consommation de gaz en alternant régulièrement d'un détendeur sur l'autre, de façon à conserver suffisamment de gaz dans chaque bouteille pour pouvoir ressortir sur une seule si jamais on perd du gaz en cassant un tuyau. On double tout le matériel. En général, on a un petit masque de secours. On a de l'éclairage de secours et de l'éclairage main libre, de façon à pouvoir continuer à travailler, à s'éclairer, à se diriger, avec, bien sûr, une main qui reste sur le fil, toujours. Le fameux fil d'Ariane, qui permet de se diriger même si on n'a plus de visibilité.
Donc c'est une concentration de tous les instants, j'imagine.
Absolument, mais qui n'est pas terminée, parce que quand on va travailler dans la grotte a des planchers assez décalés, et parfois de certaines hauteurs, et donc la moindre chute sur un sol qui est très glissant, imaginez une fracture ouverte ou une fracture du rachis dans la grotte Kosker, et la question de l'évacuation de la victime, de sa mise en sécurité, c'est absolument prodigieusement complexe à organiser. Et la meilleure des façons de s'en prémunir, c'est la prévention du risque et de ne pas de toujours être attentif à ne pas risquer une chute. Et c'est la même chose pour le matériel scientifique fragile que l'on transporte. On a beaucoup de précautions à prendre, donc c'est très fatigant, c'est quelque chose qui est épuisant en plus de la dépense physique, c'est la l'attention et la concentration permanente que nécessite le travail dans la grotte.
Oui, mais ça vaut le détour, si je vais me permettre.
Ah oui, absolument. C'est ça vaut tous ces efforts et je pense que il faudrait 10 fois plus ou 100 fois plus d'efforts, ça vaudrait toujours la peine. C'est un lieu magique.
Mais bien sûr, on l'a dit à la fin du récit, la grotte Kosker, c'est terrible, mais va disparaître. Est-ce que vous avez vu l'eau monter depuis tout ce temps que vous plongez dans la grotte? Vous avez vu les évolutions? À l'œil nu, ça se voit?
Oui, absolument, et c'est quelque chose d'exceptionnellement déprimant quand on connaît la grotte depuis le début des années 90, de voir ce qui a commencé à arriver de façon assez violente à la fin de l'année 2011 pour le plus grand choc au niveau du rehaussement du niveau marin dans la grotte. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'eau monte progressivement en suivant les effets du réchauffement. Et on a des effets de palier, mais le contraste, c'est-à-dire la différence entre les eaux les plus hautes, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le haut de l'estran, et les eaux les plus basses, augmente également, c'est-à-dire que l'amplitude du marnage dans la grotte est passée de à peu près 90 cm dans les années 90 à aujourd'hui 1,50 m.
Ah oui.
Presque. Donc non seulement le niveau moyen du plan d'eau s'élève, mais la limite supérieure atteinte par les eaux, ce qui pour nous est la limite des dégâts maritimes, monte beaucoup plus vite que la Méditerranée. On a donc des dégâts majeurs. Le célèbre panneau des chevaux noirs, qui est le panneau le plus publié, le plus vu et le plus emblématique de la grotte Kosker, est aujourd'hui aux deux tiers noyé.
Et sait-on quand elle sera entièrement noyée?
Alors, on peut l'estimer. Il faut d'abord concevoir et comprendre que nous sommes dans la partie sommitale de la grotte, la seule qui soit restée encore atmosphérique. Mmh. Deux tiers des volumes de la grotte sont immergés et perdus définitivement au niveau de l'art qu'elle contenait. Sont déjà donc décapés par la Méditerranée. Ça représente à peu près, on a estimé à peu près à 4/5 des surfaces qui étaient perdues et immergées. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui, il nous reste les 20% les plus hauts dans la grotte. Et que la plupart de cet art-là qui a été fait dans la partie la plus difficile d'accès, donc la plus profonde sous terre, mais la plus élevée en termes d'altitude, heureusement, puisqu'elle reste au-dessus de la mer, a été faite par des hommes debout.
Oui.
Donc la plupart des œuvres sont entre le plancher et 2 mètres, 2 mètres 50 maximum.
Oui, c'est en hauteur, mais c'est pas haut, quoi, effectivement.
C'est pas haut. Donc, toutes les œuvres qui sont déjà dans la tranche 0 à 1 mètre sont déjà agressées par la mer régulièrement et malheureusement pour des périodes de plus en plus longues. Hein. Chaque année, la mer monte plus haut, mais le temps où la mer reste la plus haute augmente chaque année. Donc, c'est plus haut et plus longtemps chaque année.
Bon, c'est que des
nouvelles,
quoi.
Ça, on le mesure et on le voit. Et donc, pour atteindre, on va dire, la cote 2 mètres et la disparition de la plupart des œuvres, si on suit à peu près les projections du GIEC, par exemple, et puis de certains glaciologues, on peut estimer qu'on y sera dans 150 à 200 ans.
Mmh. L'eau est également polluée, dit-on, dans la grotte. On dit même qu'il arrive qu'on y sente les égouts de Marseille. C'est vrai ou pas?
Oui, absolument. Le mystère des égouts de Marseille est à un peu plus de 2 km à l'ouest de la grotte. Et le Mistral fait rentrer les effluents dans la grotte. Et malheureusement, ils y rentrent facilement, mais ils en sortent plus lentement. Mmh. Donc on a effectivement assez régulièrement de la pollution marine dans la grotte. Tant qu'elle est... Alors le problème, c'est qu'elle n'est pas que bactériologique. Hein, elle est faiblement bactériologique parce que l'eau de mer et les ultraviolets puissants en Provence aseptisent assez bien le milieu, mais on a des détergents qui rentrent dans la grotte, on a d'autres polluants qui sont beaucoup plus embêtants, et on a toujours la peur d'une marée noire, par exemple, qui pourrait pénétrer dans la grotte.
Donc il était temps de construire une copie, dont on va parler dans 3 minutes, après avoir écouté Olivia Dean, qui chante « Dive ».
You're just surfing, leaning into me like it's a knot. It's so crazy lately. You just understand my feelings. Make me see I'm capable of fine. I'm feeling fine tonight. I'm ready to die. Maybe it's the loving in your eyes.
Sensible aujourd'hui, la grotte Kosker. Ce qui est sensible dans cette affaire, Luc Van Rel, c'est ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire l'immersion de la grotte, le sel de la Méditerranée qui peut effacer donc ces merveilles, ces trésors qu'on a retrouvés de peinture rupestre. Donc il fallait faire une copie. Elle a été ouverte, elle est ouverte au public à Marseille depuis l'année dernière. On va voir comment elle a été réalisée. D'abord, combien de temps cela a-t-il pris?
Alors déjà la partie, je dirais, numérisation, hein, puisque au départ la numérisation était a commencé dans le cadre des campagnes scientifiques. C'est une volonté que nous avons émis au sein de l'équipe scientifique qui travaille dans la grotte à ce moment-là. Dès 2010, on a fait des expérimentations pour savoir comment on pouvait adapter du matériel pour travailler de façon excessivement précise dans la grotte Kosker. Donc la première vocation de ce matériel, c'était une sauvegarde numérique, c'est-à-dire un clone numérique de la grotte, de façon à conserver ce qui allait disparaître. Mmh. Ensuite, c'était aussi un outil de laboratoire. Ça nous a permis de travailler au niveau microscopique, en laboratoire, pardon, ce qui n'est absolument pas possible dans la grotte. Hein. Dans la grotte Kosker, vous ne pouvez pas amener une table, poser une loupe binoculaire, c'est absolument irréaliste. Et fort de ces résultats, le ministère de la Culture s'est intéressé à notre cas et a engagé un marché public d'ampleur, un marché international en 2016, donc j'ai quitté ma casquette scientifique pour reprendre celle de professionnel et avec le groupe Fugro, qui est le plus gros groupe de topographie internationale, nous avons répondu à cet appel d'offres, nous avons gagné l'appel d'offres et nous avons commencé la numérisation en 2016 et nous l'avons terminée en 2021. Donc un petit peu après la réalisation de Kosker Méditerranée, qui est la réplique.
Et alors, pardon de vous couper, mais qui a redessiné les chevaux, les pingouins, les mâles ? Par le numérique, mais il faut bien d'abord de l'homme. D'homme.
Absolument. Donc, nos résultats ont été... Nous avions aussi prévu, bien sûr, qu'ils puissent servir à une médiation culturelle. Et ça a été le cas. Donc, ils ont été remis aux ateliers d'Alain Dalys et de Gilles Tozzello. Alain Dalys a mis au point une fraiseuse qui se nourrit de la 3D qu'on transmettait et qui permettait de recopier sur des peintes de polystyrène les reliefs et même, comme la 3D était suffisamment précise et fine, même les gravures, les micro-détails de chaque paroi. Et ces panneaux ont servi de moule en quelque sorte pour recevoir des coques qui ont été réalisées en fibre de verre et qui sont les fameux panneaux que l'on voit dans la grotte et qui sont associés au reste des décors qui eux sont en général en béton projeté.
C'était des techniques nouvelles par rapport à Lascaux et Chauvet ?
Ça a été beaucoup plus simple je dirais parce que le niveau de résolution de la numérisation était si fin que il n'y a eu guère que la couleur à appliquer, en général.
Oui.
C'est-à-dire à retraiter la couleur. Mmh. Alors que, par exemple, pour Chauvet, la 3D étant moins définie, il a fallu rajouter du mastic et se baser sur de la documentation, de la photo, etc., pour reproduire les petits reliefs, les petits détails. Donc, évidemment, ça a été beaucoup plus de travail en termes de main-d'œuvre. Ça a ajouté des centaines de kilos de mastic par panneau. Alors que là, ça a été, il a été possible de mouler les panneaux directement après le travail de fraisage sur les panneaux de polystyrène.
Alors maintenant, on va parler un peu de l'interprétation de ces peintures. Sait-on si ce sont des hommes ou des femmes qui ont peint sur les parois ? Ou plus d'hommes que de femmes, ou le contraire ?
Alors, c'est toujours délicat comme réponse, parce que on ne peut se fier qu'à certaines traces pour savoir si on a affaire à des individus mâles ou femelles. Et essentiellement, bien sûr, aux empreintes des mains. Alors, dans la grotte Kosker, on a 24 mains sur 70 qui permettent une certaine lisibilité pour l'indice de Manning. Alors actuellement, c'est l'indice de Manning évolué, on va dire, hein, qui a progressé. Donc, on n'a que 24 mains qui permettent de différencier le sexe de l'artiste. Sur ces 24 mains, on a 15 mains de femmes identifiées.
Ouais, c'est une majorité, donc.
Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 15 mains de femmes sont sur les deux secteurs de réalisation des mains, et donc des mains rouges et des mains noires. Alors que les empreintes de mains d'hommes ne sont que des mains noires et ne sont que au niveau du puits terminal.
C'est-à-dire, ça nous dit
quoi ? Que sur un secteur.
Qu'est-ce que ça nous dit ?
Oh, rien, simplement que...
Ah oui, c'est une constatation, d'accord.
Simplement, après on rentre dans l'interprétation, hein.
Oui, bien sûr.
Mais simplement que les hommes et les femmes ont eu des activités aux mêmes endroits, mais à un endroit, les hommes n'ont pas eu d'activité.
D'accord. Donc il y avait pas de parité. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Une toute dernière question sur votre découverte hein, formidable concernant l'avion de Saint-Exupéry. Oh, un petit mot. On a 40 secondes de la fameuse gourmette.
Ah, oh, c'est une découverte majeure faite par hasard par Jean-Claude Bianco, pêcheur marseillais, qui va être le déclencheur d'une enquête qui va durer presque 30 ans encore aussi pour moi et qui se déroule au large de la grotte Kosker. Donc c'était mes deux ateliers en même temps.
Bah dis donc, c'est très chic, hein, ces deux ateliers entre Saint-Exupéry et les peintures rupestres. Bravo.
Ce sont de très beaux bureaux.
Mais bien sûr.
J'ai eu beaucoup de chance.
Bien sûr. Merci infiniment, Jules Morel, pour Luc
Avec
Morel,
plaisir.
Pour vos explications et votre témoignage. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la grotte Kosker, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.